Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mardi 28 janvier, bonsoir à tous, prenez place, c'est la session de l'info sur RFI, c'est parti pour 3 heures, voici les temps forts des 3 heures à venir. Allez, ce soir c'est mardi politique, dans 10 minutes l'invité sera la porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, ministre déléguée auprès du Premier ministre, elle répondra aux questions de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. Juste après, ce sera le débat du jour, à l'heure où de plus en plus de médias quittent X, nous poserons cette question. Est-ce que les médias ont encore leur place sur le réseau social d'Elon Musk? Est-ce que rester sur X aujourd'hui, pour un média, c'est cautionner finalement un système toxique où la désinformation fleurit? Mais dans le même temps, est-ce que quitter X, c'est abandonner une mission d'information face aux infox? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir, Adrien Delgrange ce soir, 18h30 TU Afrique Soir. Évidemment, un point précis sur la situation à Goma ce soir dans l'est de la RDC. 19h10 TU, comme chaque soir, votre session reportage. Pendant 50 minutes, Accent d'Europe sera ce soir en Turquie, où la malnutrition frappe de plus en plus d'enfants. Enfin, le grand reportage consacré à l'accès à l'eau dans la capitale péruvienne Lima. Un accès qui est devenu avant tout, aujourd'hui, le combat des pauvres.
RFI.
Voilà pour le programme, mais à 17h, bientôt 2 minutes en temps universel. C'est le journal de Victor Misistrano. Bonsoir Victor.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, cette question, quelles conséquences en Serbie après la démission du Premier ministre aujourd'hui?
Miloš Vučević a appelé à l'apaisement. Sera-t-il entendu ou au contraire la contestation va-t-elle se renforcer? Le mouvement dure depuis 3 mois. Il fait suite au dramatique incident dans la gare de Novi Sad qui avait fait 15 morts en novembre dernier. Visiblement, la pression exercée par les manifestants commence à payer avec la démission donc du chef du gouvernement, Daniel Valo.
Miloš Vučević était à la tête du gouvernement depuis moins d'un an. Auparavant, il avait occupé les fonctions de ministre de la Défense. Il a également été maire de Novi Sad et c'est sous son mandat de maire qu'ont été réalisés les travaux de la gare. Travaux conclus quelques mois avant l'effondrement de l'auvent qui a provoqué la mort de 15 personnes en novembre dernier. Alors bien entendu, la démission de Miloš Vučević doit servir de paratonnerre au président serbe, Aleksandar Vučić, qui est au pouvoir en Serbie depuis 2012 et qui assure avoir répondu aux demandes des manifestants et des étudiants qui défilent depuis des mois dans les rues de Belgrade et des principales villes du pays. Cette fois, devant l'ampleur de la contestation, c'est donc le chef du gouvernement qui est sacrifié. Mais la réalité du pouvoir en Serbie, c'est bien le président Vučić qui l'exerce. Il reste donc à voir la réaction dans la rue de l'opposition et des étudiants qui pourraient décider de maintenir la pression pour faire vaciller le président serbe lui-même.
Précision signée Daniel Valo du service international d'RFI. À Goma, la population continue de vivre dans la peur des affrontements entre l'armée congolaise et les hommes du M23 soutenus par le Rwanda dans cette grande ville de l'est de la RDC. L'Union africaine, après une réunion d'urgence de son conseil paix et sécurité, exhorte les combattants du M23 à déposer les armes. De leur côté, les Nations Unies font part de leur inquiétude quant à la situation humanitaire. Je vous propose d'écouter Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC et coordonnateur des opérations humanitaires.
Il y a encore beaucoup de tirs, y compris à l'arme lourde, beaucoup de personnes tuées. Les services de base à Goma sont toujours très gravement perturbés, l'eau, l'électricité. Les hôpitaux sont débordés, donc ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés. Simplement hier, dans l'hôpital principal pour gérer les cas graves, il y a eu 256 blessés, des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves. Ce matin, donc, on nous a rapporté beaucoup de pillages des agences humanitaires des Nations Unies, pillages de nourriture, de vivres d'urgence et de stocks de médicaments. Nous demandons l'ouverture de corridors humanitaires, la réouverture de l'aéroport, le passage des frontières pour les gens qui doivent bouger à cause du niveau de danger. Il faut vraiment la fin des hostilités.
Le représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC, joint par Amélie Tullet. À Kinshasa, la capitale, plusieurs ambassades ont été prises pour cible, notamment celles des États-Unis, de la Belgique et de la France. En Syrie, 12 civils ont été tués en deux jours par des bombardements de la Turquie, selon les forces démocratiques syriennes. Ces forces, dominées par les Kurdes, contrôlent le nord-est du pays. Vous écoutez RFI, il est un peu plus de midi à Washington. À peine de retour au pouvoir, Donald Trump multiplie les décrets pour imprimer sa marque. Il a ordonné hier la construction d'un bouclier antimissile de type dôme de fer pour protéger les États-Unis, à l'instar du système qui défend le territoire israélien. Ce bouclier a-t-il pour objectif de relancer une compétition technologique avec les adversaires des Américains ? Élément de réponse avec Franck Alexandre.
Certaines démonstrations de force toutes venues de Moscou ont généré une véritable inquiétude au Pentagone. Il y a eu la multiplication de tirs de missiles hypersoniques de type Zircon, puis le tir dans l'espace d'un missile anti-satellite en 2021, et récemment le tir sur le territoire ukrainien d'un missile balistique intermédiaire, l'Oreshnik. La Russie indique ainsi à l'Occident qu'en matière de missiles, elle a conservé un savoir-faire inégalé. Les États-Unis préparent donc leur réponse, et ce sera un bouclier antimissile destiné à relancer une nouvelle guerre des étoiles, estime le général de l'armée de l'air, Bruno Mignot.
Le dôme de fer de M. Trump, c'est empêcher l'efficacité des missiles intercontinentaux russes contre le territoire américain et de décrédibiliser l'arsenal nucléaire russe. Pour moi, le dôme de fer ressemble quand même étonnamment et peu ou prou à l'initiative de défense stratégique du président Reagan des débuts des années 80. Et c'est quand même, à mon sens, cette guerre des étoiles qui a permis aux États-Unis en particulier de gagner la guerre froide contre l'URSS.
Selon les experts, un seul tir de missile Oreshnik coûte à Moscou 100 millions de dollars avec son dôme de fer. Washington parie sur le fait que la Russie sera bientôt à court d'argent pour poursuivre la compétition.
Franck Alexandre, spécialiste défense d'RFI. De son côté, le Sénat américain a confirmé hier la nomination du nouveau secrétaire au Trésor, l'équivalent du ministère de l'économie et des finances. Le milliardaire Scott Bessent sera chargé de mettre en œuvre les priorités économiques de Donald Trump, à savoir déréguler, tailler dans les impôts et les dépenses. Précision Myriam Berber.
Ce financier, âgé de 62 ans et diplômé de Yale, est une personnalité appréciée des milieux d'affaires. Il dirige depuis 2016 sa propre société d'investissement, Key Square Capital Management, où il a cumulé une fortune de 500 millions de dollars. Ancien démocrate, Scott Bessent est également un proche de longue date de la famille Trump, malgré ses liens passés avec le milliardaire libéral George Soros, avec qui il a rompu. Réduire le déficit tout en soutenant la croissance économique, sa mission s'annonce difficile. Le pays fait face en effet à une dette publique colossale de 36 000 milliards de dollars. Le premier défi de Scott Bessent sera de mener les négociations sur l'augmentation des tarifs douaniers dans un contexte de tension commerciale mondiale. Il devra aussi prolonger les baisses d'impôts du premier mandat de Donald Trump qui doivent expirer à la fin de l'année et réduire les dépenses fédérales et notamment les politiques vertes avec les aides aux énergies renouvelables.
Les explications de Myriam Berber. En France, tollé à gauche après les propos du Premier ministre hier. Dans une interview à la télévision, François Bayrou, qui répondait à une question sur Mayotte, a employé l'expression de « sentiment de submersion » pour qualifier la situation migratoire dans le département français. Colère des députés socialistes avec lesquels le gouvernement cherche à nouer un accord de non-censure. Boris Vallot, le patron des députés PS, a interpellé François Bayrou cet après-midi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. On l'écoute.
Monsieur le Premier ministre, la question migratoire est une affaire trop sérieuse pour s'en laisser dicter les termes par l'extrême droite. Et ce débat mérite mieux que cette funeste coalition de l'ignorance, des préjugés et de l'opportunisme au prix de tous nos principes républicains. Tout plutôt que cet ordre qui prend ses pouvoirs dans la haine de l'autre. En républicain, dans la fidélité à votre famille politique, les démocrates chrétiens, je vous appelle au sursaut. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion.
Le Premier ministre qui a replacé ses propos dans leur contexte, mais les a surtout maintenus. Écoutez la réponse de François Bayrou adressée à Boris Vallot.
Le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que toute une communauté est confrontée à des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. Ce ne sont pas les mots, monsieur le président Vallot, qui sont choquants. C'est les réalités.
De son côté, Emmanuel Macron était au Louvre, le musée le plus visité du monde. Le président français annonce un plan de rénovation estimé à 700 à 800 millions d'euros sur une dizaine d'années, dont une seule part très minoritaire sera financée par l'État. On continue de parler politique tout de suite dans Mardi Politique.